Déranger, l'émission pour déranger. Une émission sur Radio Kaléidoscope 97.fm. Les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois, de 18h30 à 20h, rediffusion tous les lundis de 19h à 20h30.
Dans de bonnes conditions, avec de bonnes lois, sans persécution abusive, sans morale abusive, avec une certaine compréhension de ce qui se passe, eh bien, on peut faire beaucoup de bien. Moi, une de mes amies disait, nous sommes là pour soulager les souffrances de l'humanité. Une femme toute simple, elle me l'avait dit au téléphone. Et c'est vrai. C'est-à-dire, il faut prendre conscience qu'on a un certain pouvoir et une certaine responsabilité en tant que prostituée vis-à-vis des hommes qui viennent nous voir. Ils attendent quelque chose de nous. C'est à nous de savoir le leur donner correctement. Mais pour cela, il faut qu'on nous respecte et que la société arrête de nous massacrer, de nous persécuter, de nous mettre en morceaux. Et maintenant, ce qui se passe avec la nouvelle loi Sarkozy, c'est assez ignoble. Menacer des femmes de prison qui la plupart n'ont fait aucun mal à personne, hein, les criminaliser elles, alors que normalement on devrait justement les respecter et leur ficher la paix.
Alors là on
bonsoir.
Vient
bonsoir.
On vient d'écouter un extrait d'un interview de Griselis Réal. Alors Griselis Réal, c'était une prostituée genevoise qui s'est prostituée longtemps, je crois à peu près pendant 30 ans, et aussi qui était, on pourrait dire, une courtisane révolutionnaire qui s'est énormément engagée dans les mouvements de prostituées initiés à peu près à partir des années 70. Et voilà, et elle est morte l'année dernière. On peut trouver différents ouvrages qu'elle a écrits, genre Carnet de bal d'une courtisane ou...
Ouais, depuis sa mort, il y a plusieurs... Il y a une autobiographie qu'elle a écrite et des échanges de lettres aussi qui ont été republiés, donc... qui sont plus trouvables, et c'était aussi une prostituée activiste qui s'est vraiment engagée de manière internationale, quoi, dans à peu près toutes les luttes qu'il y a pu avoir.
Voilà.
Et pourquoi cette intro? Parce que aujourd'hui, notre émission dégenrée, le but c'était un peu de faire une émission où on laisserait la parole à des prostituées.
Donc là, en l'occurrence, c'est pas plein de prostituées, c'est juste trois prostituées. Donc du coup, nos interviews, ils sont pas représentatifs du mouvement ou de l'activité de la prostitution. En fait, c'est trois nanas qui ont des papiers. Enfin, et du coup, c'est juste pour dire que c'est pas représentatif, quoi, de quoi que ce soit. Enfin, c'est juste trois nanas qui racontent leur histoire et leur arrivée dans la prostitution et leur démarche quant à ça et tout ça.
Ouais, donc c'est des interviews qu'on a réalisées à Toulouse, à l'association Griselidis. Donc on vous en avait déjà parlé, d'autres émissions qu'on a fait sur le travail du sexe. Donc Griselidis, c'est une association de santé communautaire à parité avec les prostituées. Ce qui veut dire que dans l'association, il y a autant de, travailleuses sociales, diverses militantes, que de prostituées qui travaillent dedans. Et voilà, c'est une assoce qui existe depuis pas mal d'années et qui font vraiment un travail chouette, sauf que ce qu'on avait aussi déjà parlé, c'est que depuis justement la loi Sarkozy dont parlait Griselidis Réal dans l'entrée, qui criminalise la prostitution, la situation est beaucoup plus difficile parce que un peu pour rappeler cette loi, elle criminalise donc le racolage passif. Donc avant, dans la loi, il y avait une criminalisation du racolage actif, alors que là, c'est toi, t'as le texte, tu peux dire plus exactement.
Là, moi, j'ai le texte sur. Maintenant, c'est que même l'attitude passive, elle est quand le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 3 550 € d'amende. Ça a un peu changé les textes, je crois, mais bon, ça c'est quand même le texte de base, quoi.
Ouais, si, c'est, en fait, il est toujours d'actualité, c'est la loi sur la sécurité intérieure, donc qui a été mise en place en 2003. Et en fait, parce que ça aboutit dans l'idée, ça serait déjà que en fait, ça vise aussi toutes les femmes, parce que n'importe quelle femme qui se retrouve à une heure où elle n'est pas censée, selon la morale, être dans la rue, dans une tenue qui est jugée trop sexy ou provocante, qui est là, pourrait se faire arrêter pour racolage passif. D'ailleurs, c'est quand même déjà arrivé, des arrestations de personnes qui, il se trouve, ne se prostituaient pas. Mais bon, en fait, avant tout, cette loi, elle vise les prostituées étrangères, migrantes, et en fait, sous couvert, soi-disant, de lutter contre les réseaux de proxénètes, en fait, elle cherche à attaquer les migrantes qui se retrouvent en prison à Toulouse. Enfin, je crois même actuellement, à peu près en tout, c'est au moins, j'ai même plus si ce chiffre c'est en France ou juste à Paris, mais il y aurait 2 prostituées par jour qui se retrouveraient en prison. C'est aussi des amendes à fond, et le résultat pour les femmes qui sont en France et qui n'ont pas de papier, c'est des risques de reconduite à la frontière, c'est le centre de rétention, etc. Et à Toulouse, par exemple, la situation est vraiment très difficile, parce qu'il y a des rafles de plus en plus. Et il y a des procès toutes les semaines, et c'est vraiment un harcèlement policier constant. Mais bon, dans les interviews, on voit aussi, les femmes vont aussi un peu redévelopper ça. Ouais.
Et ce que tu disais pas et que je voulais rajouter, c'est que les prostituées étrangères qui sont munies maintenant, qui sont en situation régulière avec cette nouvelle loi, peuvent se faire retirer directement sans procédure leur carte de séjour temporaire.
Mm-mm.
Enfin, c'est bien glauque, tout ça.
Voilà, donc on va commencer par une
interview.
Tout à fait.
Une interview de Comtesse. Et vous allez voir, c'est plutôt chouette.
En réalité, je crois que toute personne qui vient dans la prostitution, il y a probablement une fracture, quelque part. Déjà, une fracture sociale, puisqu'elle accepte en tant que prostituée d'être un peu récluse. Mais dans la forme de la prostitution, nous sommes recluses, mais à l'extérieur, pas comme les carmélites, qui sont recluses, mais elles à l'intérieur. Voilà. Donc il faut s'attendre à mener un long combat avec soi-même, d'abord, parce que lorsqu'on débute, on ne s'accepte pas en tant que prostituée. Hein. On se donne mille et une excuses pour se justifier. Mais Alors on commence à vivre clandestinement, parce qu'on vit dans son mensonge, pour ne pas s'accepter en tant que prostituée. Ah, ben oui, bien sûr, nous sommes des êtres qui vivons en société. Si, je ne connais aucune prostituée sur une île déserte. Hein. Il peut y avoir une copine, un amant, un mari, il y a toujours un indicateur, comme sur les routes, pareil. Vous choisissez cette voie-là ou vous ne prenez pas cette voie-là. Il y a quand même un choix. Du moins, je considère que dans ma vie, j'ai fait ce choix-là. En ce qui me concerne. Après, je ne peux pas parler pour d'autres personnes, donc peut-être ce n'était pas le choix. Mais là, on parle d'une autre forme de prostitution. Vous pouvez penser que le monde de la prostitution a évolué. Eh bien, moi, je vous dis que non. Je trouve même qu'il y a une espèce d'effet rétroactif dans le monde de la prostitution, grâce ou par les effets de la loi Sarkozy. Et par contre, ce que je peux constater au travers de mes propres expériences, c'est que le monde de la prostitution, ce qui amène les personnes à se prostituer, sont toujours pour les mêmes raisons, les mêmes effets, les mêmes causes, et il y a toujours la même mentalité, on va dire intellectuelle, qui est là et qui reste. Les discours que j'entends des personnes prostituées, de quelque origine qu'elles soient, à l'heure d'aujourd'hui, j'entends exactement les mêmes que ceux que j'ai entendus il y a, on va dire, 30 ans en arrière, hein, pour arrondir les choses, ou 20 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, ou 10 ans en arrière. Alors, je pense que ce qui fait évoluer l'image de la prostituée, ce sont des mouvements, de groupes divers, mais la prostituée en elle-même, non. C'est un véritable menhir social. Hein. Alors moi je pense que la loi Sarkozy, ça fait un peu comme le jeu de Colin Maillard. Tu sais, tu connais ce jeu? On se met un bandeau sur les yeux et à qui attrape l'autre. C'est pareil. C'est-à-dire que la loi Sarkozy pourrait effectivement faire penser que les personnes prostituées ont vidé les rues, mais il y en a énormément et qui se montrent de façon tout aussi voyante que celles qui exerçaient la profession il y a 20 ou 30 ans, pour certaines du moins, etc. etc. Alors, qui touche qui rattrape qui et quels en sont les effets. Ce qui est très négatif, ce sont les amendes qui sont très lourdes à payer, chose que je n'ai jamais connue personnellement, et des peines de prison. Alors là, c'est pour ça que je vous dis que cette loi, elle a un effet très rétroactif qui nous ramène à des années en arrière, après-guerre, quand les cars sanitaires venaient chercher les filles pour savoir si elles étaient en état de santé pour travailler. Là, ce sont les centres de rétention parce que les personnes sont d'origine étrangère, etc. Je n'ai pas vu d'évolution. Ouais. J'en suis même très choquée. En fait, je suis arrivée dans le monde de la prostitution après le mouvement de 76, quand les prostituées de Lyon avaient fait cette énorme manifestation. J'avais trouvé ça personnellement très courageux de leur part, très jubilatoire, parce qu'on les voyait vraiment dans des tenues tout à fait époustouflantes. Et j'ai cru qu'effectivement, nous étions dans un monde en marche. Il faut croire que je me suis trompée. Et il ne faut pas croire que je me suis trompée. On est toujours amené à la même morale. Ce n'est pas bien d'être une prostituée. Une solidarité, elle existe comme toute forme de communauté qui se sent un peu exclue, mais il n'y a pas une solidarité collective. Ce n'est pas un collectif. Si vous demandez à des prostituées de venir manifester, il y en a un peu, mais pas toutes. Mais c'est déjà pas mal qu'il y en ait quelques-unes. Manifester, brandir. J'ai une photo où j'ai une pancarte qui dit oui à la prostitution. Mais d'abord, j'en avais une devant et une derrière. Comme ça, j'étais dans le carcan total. Voilà. C'est très difficile de faire comprendre le phénomène de la personne prostituée. Les hommes, à la limite, le comprennent mieux puisque nous leur servons. Nous sommes leur chose, un peu. Mais pour les femmes, c'est très difficile. Vous allez dire beaucoup plus facilement à un homme, qu'il soit votre ami, votre amant, ou même vous marier avec un homme en lui disant que vous êtes une prostituée, que de le dire à votre voisine ou à votre mère ou à une bonne amie. J'ai résolu le problème. Je n'ai pas de bonne amie ailleurs que dans ce monde-là. Comme ça, on parle toujours de la même chose. Parce que je me suis rendu compte que c'était très compliqué. C'était très compliqué puisque à partir du moment où vous êtes amis avec une personne qui n'est pas dans le même système que vous, elle fait un travail autre. J'étais amie avec une jeune gynécologue tout de suite après la naissance de ma fille. Nous avions de très bonnes relations, non pas parce qu'elle était ma gynécologue, le hasard a voulu que je la rencontre. Voilà. On parlait de tout, et puis un beau jour, elle m'a posé la question, mais quel est votre métier? Parce qu'elle me voyait, évidemment, style professeur en faculté de lettres, etc. Et je lui ai tout simplement dit, prostituée. Ça a été fini. Elle ne m'a pas fermé sa porte, mais ce n'était plus du tout ni le même accueil, ni le même regard. Elle m'a fait comprendre que quelque part, je la dérangeais. Et que quelque part, il était criminel de laisser faire des enfants aux prostituées. Alors les amis que j'ai sont des personnes comme Monique et Martine qui animent l'association, qui sont donc les fondatrices de l'association Brise des 10, et quelques très très rares prostituées.
Nous avons eu la grosse Charlotte, ni de Vannes et la Zonzon, qui arrosait chaque soir sa motte, au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle, qui revenait de Douala, qui revenait de Douala, et qui ch'touilla le colonel. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même que d'un, je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu du Manjou, Madame Fritton et Miss Poil Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son fer, ni ses petits poils de salsifi. Nous avons une Lily d'Honfleur, nous avons une Lily d'Honfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment. Il y a vraiment bien beau bordel, même que des cas, je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu bébé Fortiche qui était tatoué de bas en haut. Elle avait des cœurs sur les niches, et les noms de nos généraux, calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, un ancien paradadochine, un ancien paradadochine, qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même que d'accord, je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil, de jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même qu'à Dakar. Il n'en avait pas de pareil, non, il n'en avait pas de pareil.
Alors c'est une activité que si je devais la consigner en termes de chambre de métier paramédicale. On rejoint beaucoup de choses. On rejoint la psychologie, la sociologie. Je pense que si on devait intégrer l'activité professionnelle des travailleuses du sexe, on devrait la ranger dans cette catégorie de métiers. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, énormément. Chacune a sa propre expérience. Ce sont quand même des expériences qui sont après, conformes. Hein. Un homme, c'est un homme. Le rapport homme, femme, argent, sexe, il reste quand même à peu près pareil, voilà. Vous avez des versions différentes, mais le procédé est le même. Alors, je la fais comment, mon activité? Tu veux savoir comment je l'aborde? Oh, avec... oui, avec... un certain humour, oui. Le dialogue possible, toujours avec un homme. La négociation se croirait d'ailleurs sur un marché africain, parce qu'on est toujours en train de négocier le talent contre de l'argent avec un homme. On est très en contact avec les hommes et l'argent. À croire qu'une personne prostituée ne vit que pour le rapport de force entre le pouvoir de l'homme et le pouvoir de l'argent. Et quand les périodes sont très difficiles comme celle d'aujourd'hui, ben moi j'ai l'impression que j'ai perdu mon pouvoir de personne prostituée. Et ça me déprime. Sinon c'est assez fascinant l'abordage d'un homme, hein, ça devient presque un terme de marine. On pirate un homme, il passe, on lui sourit, et on l'aborde, et après on négocie un contrat de sexe. Alors le plus gênant, c'est lorsque des personnes passent à ce moment-là et que vous êtes en pleine négociation de contrat. Et j'ai vu des femmes choquées, parce que je disais, bien écoutez, cher monsieur, exemple, hein, bon, depuis je me méfie des mots que je dis sur le bord de trottoir. Hein. Mais quand vous dites je vous suce, la secrétaire qui sort de son bureau qui entend cette forme de négociation, elle est choquée. Alors depuis, j'ai choisi un langage beaucoup plus compliqué. Mais si je dis, vous savez, je suis une femme experte et je pratique une fellation dont vous saurez apprécier la qualité, le mec qui me revient dans sa tête, il doit se dire c'est une belle salope, une bonne suceuse, voilà. En fait, je fais dans la littérature. Faut quand même respecter mon entourage urbain. On va dire les choses comme ça. Dans mon activité professionnelle, ce que je vends, certes, c'est mon corps, mais jamais mon âme, hein, je veux le savoir. Ça me donne du recul par rapport à ma clientèle, par rapport au lieu sur lequel j'exerce mes activités, et même par rapport à mon entourage immédiat, qu'il soit prostitutionnel ou urbain, comme je l'appelle. En fait, je suis quelqu'un qui fait du charme à tout le monde. Alors, le truc fort que je veux faire passer, c'est de dire aux personnes prostituées, vous êtes des prostituées, assumez-vous en tant que femme, et après, en tant que prostituée. Et surtout, soyez très fiers de vous, car nous sommes un produit éternel dont tous les hommes auront toujours besoin, quelles que soient les difficultés de la situation. C'est un métier où on souffre beaucoup aussi, hein, il faut le savoir. Et je pense que nous avons besoin aussi de cela comme affirmation première. Parce qu'il faut que cette souffrance, elle transparaisse dans nos revendications. Voilà, puisque nous sommes prostituées, que nous souffrons, eh bien, nous sommes là, quand même, malgré tout et contre tout et envers tout.
Stop! Stop!
Alors, on vient d'écouter un morceau de CTB, un groupe de meufs de Saint-Étienne. Alors, c'est la pute de Sétif. Tu le savais pas, je suis la pute de Sétif, je suis le monstre, je ne veux pas me marier, je ne veux pas enfanter, je ne veux pas travailler, je veux faire ce que je veux. En gros, c'est tout un texte sur une pute qui veut pas faire ce qu'on lui demande, quoi, d'être une femme comme il faudrait. Donc Sétif, c'est une ville en Algérie, et la pute de Sétif, c'est une expression souvent utilisée pour brider les faits, gestes et paroles des filles.
Ouais, puis moi je trouve intéressant ce morceau parce que c'est un peu l'exemple de l'utilisation du stigmate de l'insulte de pute contre toutes les femmes, enfin en gros un peu ce qu'on nous apprend toujours, une espèce de morale, fais pas ci, fais pas ça, sinon tu serais considéré comme une pute, une salope, quoi.
C'est ça.
Une espèce de division entre les gentilles filles, les mères et les putains. Voilà, on a trois choix. Ah oui, et les gouines aussi. Et... c'est ça en fait, les deux à la fois. Et sinon, en fait, moi, quand j'ai réécouté l'interview de Comté, je pensais juste à un truc sur ce qu'elle dit à la fin, où elle dit voilà que c'est un métier, enfin plutôt une activité qui a toujours existé, qui existera toujours parce que les hommes en auront toujours besoin. Et j'avais un peu envie de dire un truc par rapport à ça, parce que moi je pense pas que les hommes aient plus besoin
de la prostitution.
De prostituer que par exemple des femmes. Enfin, je pense que là la prostitution, évidemment, elle existe dans un cadre patriarcal, et du coup c'est des femmes qui se prostituent pour des hommes. Et j'avais un peu envie de dire un truc par rapport à ça, parce que ça... Je trouve que c'est de besoin, c'est aussi un peu l'idée qu'on dit toujours que les hommes ils sont plus sexuels que les femmes, qu'ils ont des pulsions, du coup faut les comprendre, etc. Et je pense que c'est un truc qui est construit et qui est faux. Enfin,
voilà, nous aussi on a des pulsions et des envies sexuelles.
Et voilà, les hommes pas plus que nous.
Et puis on y tient nos pulsions sexuelles.
Et sinon, et on va continuer avec un autre témoignage.
C'est ça, un témoignage
de Myriam. Bonne écoute.
Moi, comment je sais, mon histoire, c'est que j'ai rencontré une fille sur les allées Jean-Jaurès sur la Pulouse, que je connaissais de l'école. Et cette fille, comme elle était vachement métamorphosée, c'est-à-dire perruque, lunettes de soleil, je n'étais pas sûre que ce soit elle. Et je me suis un jour arrêtée devant elle, je lui ai dit bonjour déjà, bon, parce que si ça aurait été pas elle, je vais dire con. Et sa voix, je l'ai reconnue. Et je lui ai demandé ça, ça va. Je ne peux pas dire le prénom, puisque je la connais, j'ai connu après par son pseudo, je lui ai demandé son. C'était bien elle, elle m'a dit que oui, mais après elle m'a donné son pseudo. Et c'est là qu'elle, on en a eu parlé, puisqu'on était boire un café ensemble. Et bon, moi c'est vrai que j'ai pas réagi bêtement. Moi j'ai compris qu'elle faisait ça, parce qu'il faut pas être bête quand même. Et moi j'ai demandé, je lui ai posé des tuyaux quoi, enfin j'ai demandé les facilitaires, entre l'emploi et tout. Et elle m'a dit, à partir du moment que tu te fais respecter par les clients, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que les prostituées, on leur dit de tout faire, et le font, c'est faux. Donc, de là, j'ai essayé une journée. Bon, l'argent me rentrait facilement, enfin, sans parler, hein.
Ouais.
C'est moi, hein. Donc, j'ai fait pendant 3 ans. Enfin, bon. Puis après, c'est un engrenage. Après, c'est vrai que tous les soirs, on compte l'argent qu'on a. Puis le lendemain, il faut qu'on y retourne parce que c'est pour nous. Donc, on a un peu. On n'a pas trop envie. Puis on se dit, bon, si c'est une journée comme la veille, c'est bon.
Ouais.
Puis voilà, moi, par rapport à ça, je suis rentrée dans le tapin, enfin, dans la prostitution. C'est pas à cause de ça, grâce à ça. Grâce à cette personne, parce qu'elle ne m'a pas poussé à le faire, mais je suis réfléchie. Bon, c'est vrai que le premier client, comme on dit, n'est jamais le bon, parce qu'on est frustré. Enfin, moi, ma personne, j'étais frustrée, quoi. Je n'osais pas, alors bon, moi, je vais prendre l'argent sans rien faire, quoi. Mais bon, après, le client, bon, j'ai eu la chance, je suis tombée sur un client, quand même, qui était quand même âgé, qui comprenait la chose, quoi. Je ne suis pas tombée sur un jeune qui voulait à tout prix avoir un rapport... Donc, bien sûr, protégé, comme on dit, mais rapport à la sauvage.
Ouais.
Donc, après, c'est un enchaînement. Puis, bon, c'est vrai que la deuxième année, je commence à en avoir marre. Parce que bon, le fait, le tout, c'est pas de faire de l'argent qui est pénible. C'est d'attendre les clients. Parce que, bon, moi, j'ai eu, au bout de la première année, j'ai eu certains clients qui sont venus vers moi, même s'ils montent avec moi, qui me disaient, comme ça, le fameux proverbe toulousain. Oh, mais maintenant, pour nous, tu es considérée comme une vieille, parce que ça fait un an qu'elle était sur le trottoir. Ils le disaient bien, je le prenais bien. Mais pour eux, passer pour une ancienne, quoi. Donc, ça faisait un an que j'étais sur le trottoir. Bon. Et puis bon, au fil des temps, j'en avais marre. Moi, c'est la patience que j'avais plus, parce qu'au bout d'un moment, mes clients, quand ils ne pouvaient pas venir ou autre, il fallait chercher les autres clients, et puis il faut avoir le baratin aussi. Bon, moi, ça ne m'est jamais venu problème, parce que bon, mon baratin, c'est mon baratin, maintenant, son client ne croit ou pas. Moi, je disais la vraie vérité, sans rentrer dans ma vie privée, parce que ce que je n'admettais pas, c'est que certains clients essayaient de savoir la vie privée. Moi, la vie privée, c'était mon problème, quoi. Moi, j'allais pas leur demander s'ils étaient mariés ou non, j'en avais rien à foutre. Bon, puis après, la troisième année, ça a été pareil. J'en ai eu marre carrément parce que ça ne travaillait plus. C'était entre les lois Sarkozy. C'était en litige, donc il y en avait marre. La troisième année, j'ai arrêté. J'ai gardé quelques clients, comme ça, pour arrondir les fins de mois. Mais j'en tire une bonne conclusion de la prostitution. Mais disons que j'avais qu'une copine qui était au courant. Parce que moi, j'ai pas eu la chance, c'est que la plupart de mes amis habitent sur Toulouse. Et Jean Jaurès, je sais pas si vous voyez où c'est, c'était pas très c'était repérant, quoi. Ouais. Je faisais facilement. J'ai une amie à moi qui est passée, une amie que j'ai toujours d'ailleurs, qui n'a pas tourné sa veste, heureusement, qui m'a levé plus d'une fois. Bon, la première fois, elle s'est dit, bon, elle doit attendre le bus, quelqu'un, qui n'est pas dans le contexte de la prostitution. Et puis bon, la troisième fois, elle m'a mieux se poser des questions. Le soir même, elle est venue à mon domicile, mais c'est là que je lui ai dit. Bon, que je lui ai dit que la porte était toujours ouverte, elle ne voulait plus me voir. Et moi, après, c'était lors d'un repas. Bon, elle a rien dit, je crois que moi, je le dis à tout le monde. Elle a respecté mon choix. Et un jour, j'avais fait un repas chez moi, entre autres, avec la plupart des restants de mes amis, hommes ou femmes. Plus ou moins femmes, parce que bon, l'homme, c'est plutôt leur copain, quoi. Donc, j'aurais étalé ça. Moi, je me dis, je préfère vous dire qu'un jour, vous ne voyez pas tout le monde, comme ça, attendre. Bon, ils m'ont tous bien pris, au contraire, ils m'ont dit, bon, ben, fais attention à toi, et si y a le moindre problème, tu me le dis. Mais bon, par rapport à ma famille, comme je suis d'origine algérienne, je ne suis plus en contact avec eux, pas lié au tapin. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'est arrivées dans mon passé, que mon père m'a mis dehors, et que j'étais avec une personne avant que je fasse le tapin, mes parents n'ont jamais accepté cette personne. Donc j'avais des petites histoires en permanence, puisqu'à l'époque, je remontais en 96, puisque moi le tapin, je l'ai commencé en 98. En 96, j'habitais à Maringouin, un peu plus haut que Jean Jaurès, et j'avais du tapage nocturne de ma famille presque tous les soirs. Je vivais en appartement avec cet ami en question, et jusqu'à qu'il y ait les flics qui se pointent. Quoi. Donc avec ce garçon, on a préféré rompre notre relation, et depuis, j'ai toujours des problèmes, entre autres avec ma famille, parce que quand ils ont su que je faisais de tapin, de Suisse, c'était ce type-là, le Macron, qu'on était restés bons copains, on s'est séparés par rapport à ma famille, pour pas avoir trop d'histoire. Et c'était lui le Macron, c'était lui ci, c'était lui ça. Bon. Moi, j'ai mis un trait sur tout ça, puisque lui n'avait rien à voir, puisqu'il avait son entreprise. Il n'avait pas besoin de mon argent. Et d'ailleurs, après, j'ai eu deux membres de ma famille qui m'ont chopé sur le trottoir. Et c'est ça aussi, plus ou moins, qui m'a fait arrêter, quoi. Parce que les Arabes, c'est pas comme ça. Chaque origine a sa façon de voir les choses, mais les Arabes, bon, c'est reconnu comme une honte, quoi. Ils voient leur fille sur le trottoir. J'ai pas autre chose à faire que ça. Donc, c'est pour ça que j'arrête aussi l'activité. C'est pas que je m'en porte pas tout plus mal. Moi, c'est les clients qui commencent à me prendre la tête. C'est pas ma famille.
C'est par rapport à la solidarité entre les prostituées, étant donné que c'est un truc qui est vachement cassé et tout ça. Comment ça se fait?
Je vous dis honnêtement, hein, j'ai eu un genre de problème parce que, à l'époque, il y a 5 ans en arrière, on va dire, puisque c'est en 98, c'était il y a 5 ans en arrière, même plus 7 ans. J'ai eu un cas, parce que les hôtels ne prenaient pas facilement les filles, parce que c'était des cercles vicieux, enfin bref. Et on devait travailler par nos propres moyens, c'est-à-dire travailler en voiture. Et moi, j'ai eu le cas d'une fille qui travaillait dans le même endroit que moi. Je suis tombée sur un client jeune qui a pu me piquer qu'un portable. C'est les débuts des portables, quoi. Il n'a pas pu prendre mon sac, il a pu prendre mon portable. Et une fille était présente, bon, je ne cite pas de nom parce que bon, ça ne regarde qu'à moi, était présente lors de mon... Quand il m'a agressé verbalement, c'était que des paroles. Et après, il m'a pris le portable, il m'a jeté lors de sa voiture et puis il est parti. Une fille que je côtoie jusqu'à présent dans la haine, j'ai presque plus la haine parce que c'est dépassé, était présente toujours là, elle n'a rien fait avec son client. Bon, son client voulait s'arrêter devant moi, mais elle lui a fait comprendre qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle n'en avait rien à foutre. Donc moi qu'on ne parle pas de solidarité, parce qu'il n'y en a pas de solidarité.
Et tu sais pourquoi il n'y a pas de solidarité?
Mais parce que déjà, dans le tapin, quand on passe devant une autre prostituée avec le passage d'un client, il y a une façon de regarder l'autre. c'est-à-dire faut pas la regarder en me disant moi j'ai un client. Bon, moi ça m'est jamais arrivé parce que moi je respectais les autres filles. Déjà je faisais un détour pour pas passer devant elle parce que je me rendais soit à l'hôtel ou soit le client avait garé sa voiture plus loin. Je faisais un détour pour pas passer devant certaines filles que je connais, mais en venir de les narguer. Parce qu'elle, elle me représentait comme ça, qu'on les narguait, que c'était mon chemin pour aller à l'hôtel. Donc j'ai pas eu, à part cette personne de la juillet que le client m'a planté en. Et c'était du côté du Grand Mont, là-bas, un peu à la campagne. Mais après, je suis revenue à pied. Puis cette fille-là, quand j'étais à voir droit, elle m'a reconnue. Elle savait que c'était moi. Hein, et que je lui ai dit merci pour tout à l'heure. La fille qui n'avait rien compris. Donc moi, on ne parle pas de solidarité parce qu'il n'y en a pas. Moi, je l'ai vécu. Et je ne pense pas qu'entre nous, les filles. Enfin, moi, personnellement, j'aurais été solidaire avec notre fille. La preuve, c'est qu'une fois, il y a un type qui était venu me voir en me proposant des choses malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il connaissait un vieux. Et que ce vieux était prêt à donner facilement en 5 francs, 1 million. Mais que je fallait que je partage avec ce type, quoi. C'était un Macron, quoi. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit, non, moi, je ne marche pas là dans tout ça. Je fais comprendre au type de se barrer. Je fais, moi, c'est les clients honnêtes que je veux, c'est pas les clients. Hein. Je m'en fous de ton client, moi. J'ai dit, ton vieux, 1 million. Bon, il est parti parce que j'ai fait un semblant d'appeler les flics avec mon portable. J'ai fait un semblant que moi, je marche pas avec les flics. Hein. Mais pour faire fuir au type, j'ai fait ça. Et quelques minutes plus tard, je vais voir ma collègue, justement, avec qui j'ai. C'était elle un peu qui m'a dirigé vers le tapin. Et le type, il s'était mis en face. Il nous regardait discrètement. Et je lui ai montré discrètement le type parce que je l'avais vu de loin. Je lui ai dit, tu vois ce type, je te conseille de ne pas le monter parce qu'il va te faire une proposition malhonnête ou alors il va piquer ton premier. Moi, j'avais ce regard sur ce type comme ça. Bon, elle m'a fait confiance. Parce que moi, quand je disais à une fille, ne monte pas avec ce type, c'est pas pour que je le fasse moi. C'est pour pas qu'elle ait de problème. Parce que. On le sent le type, il y a un truc qui dit celui-là, il a l'air malhonnête, voleur, agresseur, on le sent. Bon, moi dans l'après-midi après j'ai eu mes clients titrés, donc j'ai pas fait attention. Et je reviens vers elle, elle était avec une bande de collègues, et puis elle chialait. Bon, je me pose la question, je sais pourquoi elle pleure, elle a une mauvaise nouvelle, un problème dans la journée, puis c'est une fille qui s'est avancée vers moi, une fille que je connais aussi. Qui m'a dit, vient de se faire agresser, le type lui a piqué le pognon. Et la façon dont on m'a décrit le type, c'était le type de la même matinée, quoi, qui m'avait fait. Bon, j'ai pas ennuyé là, elle, parce qu'elle se rappelait plus comment il était. Puis après, elle est venue vers moi, elle, en me disant, tu avais raison, Myriam, parce que j'allais dire mon vrai prénom. Tu avais raison, Myriam, le type que tu m'as parlé ce matin, ben, il m'a agressé, il m'a pris mon pognon. Bon, ben, c'est-à-dire que moi, quand je disais ça à une fille, c'était pas pour moi, c'était pour elle. Là, je peux dire que j'étais solidaire, mais bon, c'est vrai qu'elle ne se rappelle plus de la personne. Bon, moi, si je peux aider une fille qui est mal, comme on dit, je le ferai. Mais moi, on n'a pas fait, c'est pas pour ça que je le ferai pas.
Si tu avais un message à faire passer sur la prostitution ou prostituée en général, ce serait quoi?
Continuez, les filles, on est toujours dans le mouvement, je dirais, et il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Tous et toutes ensemble.
Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now. Sucking beer through straws, up and down the drawers. Did you get yours?
Sur Dégenré, une émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc aujourd'hui, une émission qui veut laisser la parole aux prostituées. Et on vient d'écouter un morceau de Néné Chérie, où, alors si je vous résume un peu les paroles, c'est une femme qui s'adresse à un homme qui veut être son proxénète, et en gros, elle lui dit qu'elle veut pas bosser pour lui. Et sinon, ça s'adresse aussi aux autres prostituées pour un peu dire qu'elles doivent rester ensemble, s'associer, et ben pour pouvoir aussi bosser sans proxo. Voilà, c'est résumé vite fait parce que je ne suis pas une pro de l'anglais, mais on me l'a traduite. Et on va continuer notre émission avec cette fois-ci un témoignage d'Isabelle et qui aborde différents thèmes, à la fois la discrimination des putes par rapport à un procès qu'elle a eu, et aussi ce qui est intéressant, un peu le fait que de considérer les putes soit comme des pauvres victimes, soit comme des criminels, et ça crée de la division entre les femmes, et que ça critique aussi que des féministes aient ce point de vue-là et du coup rejettent une partie de la population des femmes sous prétexte que ce sont juste de pauvres prostituées aliénées.
Je dis que j'ai décidé d'être prostituée. Ça a été une réflexion. J'ai mis le temps de mûrir mon projet, de vérifier comment ça pouvait se passer sur le terrain et des conditions dans lesquelles j'avais envie d'être prostituée. À savoir que dans les années 85-90, par exemple, la légende voulait qu'une nana qui n'était pas branchée dans le milieu, son mec pouvait pas s'installer seul comme ça sur son bout de trottoir et gagner sa vie. Donc moi au départ ça a été de vérifier et de tâter le terrain, et en même temps je me sentais dans une société qui portait quand même l'évolution des droits de la femme, et donc je me disais que c'était un peu costaud, donc je me sentais un petit peu protégée par une aura comme ça, cette évolution sociale, plus moi un petit bout de défi finalement, plus aussi de m'accorder des conditions de vie, parce que je travaillais beaucoup en tant que salariée, j'étais capable de faire des heures supplémentaires pour des petits salaires, et donc du coup ça m'apportait tout ça en même temps quoi, et ça m'a amené des conditions de vie que je me maîtrisais moi, qui m'arrangeait moi, et plus comme un défi social d'égalité, de parité homme-femme, donc c'est pas les hommes qui commandent sur le terrain, parce que c'est Donc maintenant, en 2006, j'avais pas la conscience de comment étaient positionnés certains groupes féministes, c'est-à-dire qui sont bien dans l'évolution de la femme, mais comment la prostitution est quand même, et avec la prostitution, les prostituées en tant qu'individus, en tant qu'entité, comment du coup ces personnes-là ne faisaient pas partie du lot des femmes qui devaient évoluer et qui devaient se légitimer. Quelque part, heureusement que j'avais pas cette conscience-là, parce que j'aurais été terrifiée et il aurait fallu que j'aie deux fois plus de courage. J'avais le courage, mais j'avais comme une sensation sans... J'ai pas vérifié ça, j'ai vérifié sur le terrain au niveau des proxos comment ça se passait. Je me suis vite rendu compte que le proxo, ça n'existait pas comme ça à l'état pur, que c'était un type de relation qui se mettait en place entre deux êtres humains, quoi. Mais le proxo, il n'y a pas de proxo génétique comme il n'y a pas de prostituée génétique. Mais je me sentais portée et protégée sans avoir pris le temps de vérifier, heureusement, par tout un mouvement. Voilà, ceci dit, j'ai de très bons souvenirs de la prostitution. Alors, bon, maintenant, à l'âge que j'ai, dans les conditions, parce que mes repères, c'est travailler dans la rue. Il me faudrait travailler, par exemple, sur Internet. C'est pas ma génération, donc j'aurais pas les mêmes repères. Et je pourrais pas être autant à l'aise de présenter mon image pour un échange de services sexuels sur le net, parce que j'aurais l'impression de devoir prendre en photo mon cul. Ça va pas me poser de problème en soi, sauf que dans la rue, je me suis autorisée à me présenter comme je le voulais. C'est-à-dire pas forcément avec les clichés qu'on nous renvoie. Et ça m'a pas du tout empêché de travailler, de fidéliser une clientèle, et j'ai beaucoup d'attachement à cette activité. Ben, j'ai l'impression de... C'est même pas une régression. La sensation que j'ai, c'est l'effondrement, c'est le sol qui s'ouvre, voilà, c'est la faille. Et on y jette comme ça toutes ces femmes, en disant on règle plein de problèmes idéologiques, on lutte contre la traite des êtres humains, etc. Mais c'est sans avertissement, c'est un séisme, voilà. C'est la sensation que j'ai, il n'y a rien qui dans des discours développés, dans des débats publics, il n'y a rien qui a pu avertir. Et d'un coup, une loi arrive, on pénalise le fait d'être dans la rue. Il faut savoir que bosser sur Internet ou par annonce, c'est pas pu autoriser. De toute manière, ça rentre dans le cadre du racolage. Donc momentanément, la France n'y touche pas. Ça nous laisse l'illusion de la tolérance, mais c'est pas, il n'y a aucun cadre législatif pour exercer la profession. Même lorsque les prostituées étaient tolérées, lorsque nous étions tolérées, il fallait avoir de bonnes dents et de bonnes griffes, parce que on était sûr, à un moment ou à un autre de sa vie, de devoir pâtir de là où on se légitimait, quoi, dans l'exercice de l'activité. Et parfois là où on ne pouvait pas s'y attendre. Donc les droits n'étaient pas réellement acquis. Sauf que là, c'est le précipice et c'est le trou béant. Ben, par rapport à quelques expériences de vie, alors je sais pas, c'est pas du tout objectif, mais j'ai eu une expérience dans ma vie où je me suis retrouvée donc face à des groupes de femmes indirectement. Ça s'est construit comme ça, parce que c'était des femmes qui avaient un job, donc il y avait une avocate, il y avait une magistrate aux affaires familiales, il y avait mon avocate, mais bon, en ce qui me concernait, le hasard avait voulu qu'elle ne soit pas présente, donc j'avais dû défendre mon dossier toute seule. Il s'agissait d'un problème de garde d'enfant et d'un conflit entre le papa et moi, et où il n'était question que de ma prostitution. L'avocate qui défendait le papa de mon fils a trouvé très pertinent, pour commencer ses arguments, en disant, voilà, Monsieur X réclame la résidence de l'enfant, réclame que l'enfant porte son nom, alors que, moi je l'avais reconnu parce que j'étais toute seule à le reconnaître, jusqu'à son sixième mois au bébé. Donc Monsieur X a demandé Madame Y, moi-même, en mariage, celle-ci a refusé, préférant continuer sa profession de péripatéticienne. Donc ça s'est passé en 97, ça date pas, voilà, c'est pas dans les années 45 après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, d'un coup, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, mais pas possible. Mais j'ai eu confiance. Je me suis dit, c'était tellement gros qu'on m'oppose et qu'on trouve très pertinent ce type d'argument. Et moi, comme une idiote, pas du tout accompagnée par mon avocate, de toute manière, même, je me suis trouvée très intéressante, mais je me donne raison. Quand ça a été mon tour de parler, j'ai répondu, depuis quand le mariage est une profession ? Moi, la prostitution, je ne peux pas parce que j'ai un bébé changé du jour au lendemain. Le monde du travail n'attendait pas juste que j'arrive parce que j'ai mis au monde un bébé. Il va me falloir du temps, s'il le faut, mais dans l'immédiat, j'ai mon autonomie financière. Ça fait 15 ans que je travaille comme ça. Le papa savait le métier que je faisais et je ne peux pas quitter mon métier. Je ne savais pas ce que je disais, parce que lorsque j'ai reçu la réponse de la magistrate aux affaires familiales par écrit, elle n'a pas fait de cadeau à la bonne femme. 10 ans après, je ne m'en remets pas, je ne peux pas le relire. Elle m'a démonté la gueule. J'aurais préféré finalement, je regrettais par exemple, j'aurais préféré être une femme battue. Peut-être que là, cette femme m'aurait entendue. Mais là, j'ai été littéralement maltraitée. Alors, est-ce qu'on a maltraité la femme prostituée ? Est-ce qu'on a maltraité et soupçonné la femme qui, c'est-à-dire moi, qui avait posé des limites à de toute manière, à des conflits qui allaient basculer dans des spirales de violence auxquelles j'allais contribuer. Qui sait qu'on a sanctionné, je ne sais pas, peut-être même les deux à la fois. Plus tard, l'avocate qui me soutenait, qui n'était pas présente, mais d'où, là, vous n'avez pas été maligne. Vous n'avez pas été maligne. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je joue ma victime ou que... Voilà. Donc ça, c'est une expérience qui est propre, mais qui est quand même beaucoup plus grave que... Elle n'est pas simplement anecdotique. Et ce qui m'a frappée, c'est que j'étais au milieu de femmes qui ont légitimé le papa, qui avaient raison de vouloir sa place de papa. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont allées bien au-delà de son désir d'avoir sa place auprès de l'enfant. Il y a eu quelque chose dont... quand on est une nana prostituée, qu'on dit qu'on craint les autres femmes qui peuvent avoir quand même un rôle décisionnaire, une prise de pouvoir sur vous et votre vie, je crois que je rejoins cette opinion. Un homme n'aurait pas pu se légitimer pour me fracasser de la même manière. D'ailleurs, lorsque j'ai fait appel à l'ordonnance, en cour d'appel, ça a été un magistrat qui a entériné la première ordonnance, mais qui n'a pas du tout eu la même expression écrite. C'est juste une observation. Je ne sais pas trop quoi en tirer comme conclusion, mais c'est ce qui s'est passé. Donc cet homme-là a trouvé que la décision de la première magistrate était pertinente, mais a parlé d'activités éprouvantes physiquement et psychiquement, que j'avais besoin d'un temps de repos nécessaire, que je disposais de l'enfant dans le meilleur moment de mes temps libres, ce que la première magistrate n'a pas du tout écrit. C'était une femme et il y avait un homme.
Non, mais ce que je trouve dans l'histoire, c'est qu'elle n'aurait jamais... Enfin, en fait, je pensais à l'avocate, du coup, si c'était été secrétaire, elle n'aurait jamais dit, mais elle a préféré continuer son métier de secrétaire que de se marier. Enfin, du coup, c'est de contrebalancement entre...
Eh ben, tout à fait.
Genre, refuser de se marier... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de rapport, quoi, c'est fou.
Oui, mais là où je m'attendais pas, c'est que ça allait être entendu, que ça allait être pris au sérieux et que j'allais devoir m'adapter, réorganiser toute ma vie en fonction de cette logique-là. Donc je comprends pas très bien, je pense que sans avoir acquis ces costumes, on m'a fait basculer dans un autre siècle. C'est clair que si je n'avais pas été une femme prostituée, ce serait peut-être pas les mêmes arguments.
Ouais, aussi, donc ton discours, ça avait correspondu plus à l'image, justement, ce que tu disais de plus victime, bien que tu t'affirmes, c'est pas passé.
Oui, moi je l'ai fait, enfin, je suis toujours dans ce positionnement et j'étais congruente parce qu'en effet, je me mettais en danger, je mettais également, je favorisais trop un terrain propice à la violence en lâchant le boulot, enfin. C'est 10 ans après, mon raisonnement se tient. Moi, je vois bien comment les copines de quitter le tapin parce que tous les cow-boys qui vont sauver les tapins sur les bouts de trottoir, eh ben après, il faut suivre les violences conjugales. J'ai pas complètement halluciné. J'y crois pas au prince charmant. Et c'est pas une cour de justice, même si m'ont condamné à payer une pension alimentaire. En plus, il faut le faire à une prostituée. Bon, faut dire, du coup, ça me rendait équitable hein, par rapport au bébé. Non, mais j'hallucinais, j'ai jamais eu de proxo de ma vie. Donc, sur ordonnance, quelque part, c'est une révolte qui ne me passera jamais. Je serai une arrière-grand-mère que je vais continuer à le radoter. Cette histoire. Mais elle est tellement ridicule que je me demande pourquoi j'en ai été blessée. Bon, c'est le sort des prostituées. Donc, il y a Griselie d'Israël qui a écrit un très beau texte et elle, en son temps, ben, elle a vécu les représailles des institutions. C'était à un autre niveau, c'était une autre histoire. Les siècles passent, les années passent, mais quand on est prostituée, on est sûr de se ramasser une gamelle à un moment ou à un autre. Donc oui, nous sommes des victimes, dans ce sens, on est des victimes, ça c'est clair. Mais pas forcément comme on l'entend. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux femmes abolitionnistes, parce qu'il n'y en a eu aucune qui défendent les droits des femmes, pour venir m'accompagner, pour dire pourquoi une femme est capable d'élever un enfant alors que l'enfant porte le nom du père. J'ai rien contre, mais un père peut très bien adorer son enfant avec le nom de la mère. Ben, elles n'étaient pas là. Et puis, elles ne peuvent pas s'occuper du dossier parce que quand même, il y a la prostitution, sait-on jamais. Comme si génétiquement, évidemment, il nous manquait une case et qu'on soit forcément déstabilisé. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que il y a des groupes de gens, on n'attend pas ni de soutien, ni de ces femmes qui travaillent, mais dur, parce que je respecte le travail qu'elles peuvent faire, qui travaillent aux droits des femmes, qui lâchent pas le morceau, et que par subjectivité, elles larguent, qu'elles laissent plaquer au sol ce qu'elles imaginent un petit groupe microscopique, et elles se trompent, ça passe pas. Ouais, qu'elles arrêtent de servir le café au système masculin. Parce que je ne veux pas m'en prendre aux individus non plus, donc de ce qu'elles dénoncent et qui n'est pas forcément un discours contre les hommes, ce que beaucoup souvent dans la population on confond, donc de dénoncer et de démonter ce système masculin, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en fait elles sont en train de servir le café au système qu'elle dénonce comme de gentilles petites femmes d'intérieur, quoi. Et ça, en tant que femme, ça me tord les tripes. Ces femmes-là, elles font pas gaffe qu'elles sont en train de reproduire un système de pouvoir, un système qui est basé sur la concurrence, qui est bien masculin, et on en connaît les limites, parce que là, l'humanité est un petit peu à bout de souffle, hein, un peu partout dans le monde, quoi. On se rendra compte trop tard, dans 20, 30 ans, peut-être pas trop plus, hein, 20, 30 ans maximum, que du coup, il va y avoir un écart, à mon avis, énorme qui va se creuser entre les femmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir les femmes qui sont parvenues, qui ont un job, qui ont une image un petit peu aseptisée, idéologique, de « oui, moi, je suis une nana indépendante », et d'autres qui vont rester sur le carreau, et je pense que l'objectif de toute cette lutte, de tout ce travail, de toute cette remise en question qui est profonde quand même pour l'humanité, c'est dommage d'en arriver là, parce que je veux dire, moi j'ai pas plus envie de vivre dans un système masculin où j'ai pas une réelle place d'être humain, je veux dire, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin. Ça me fait pas plaisir, je veux dire. C'est pas parce que c'est des nanas que je vais accepter d'être une laissée pour contre et de faire partie de celles qui tombent au fond du ravin. Même si c'est des femmes, hein. Un mec qui me tient en respect, qui me menace ou qui m'impressionne, même si je suis pas costaud, je vais me positionner, je vais l'envoyer balader. Il vient pas bouffer sur mon territoire. Mais une bonne femme, c'est pareil, hein. Si c'est comme ça, enfin, voilà. Après tout. Comme dit mon gamin, ben oui maman, c'est la loi de la jungle. C'est celui qui mord le plus fort qui a gagné. Ça me plaît pas comme principe. Du coup, je suis moins à l'aise en plus de m'insurger contre des femmes que contre des individus qui transportent ce système masculin qui ne voudrait pas se remettre en question. Contre des femmes, je suis un petit peu désarmée. Je me retrouve un petit peu comme une femme qui ne sait pas trop comment faire parce qu'elle subit des violences chez elle et tout. Elle est amoureuse de son mec. Il la fracasse quand même, ça lui fait mal. Du coup, face aux femmes, je suis un peu dans ce positionnement et je ne suis pas du tout contente. Et je préfère pas être contente que de m'exploser la gueule par terre parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, je vaux le coup et voilà, je ne suis pas rédhibitoire. pas bonne pour l'abattoir. Même si je suis prostituée, que je le défends.
You call me Jackie, I call you Edna, sitting in the cream of cake, laughing at the face I have in me. A white cigar, a boarding house, sitting round the table, your sister, mother, brother, little girl. Now I'm so lonely, just a picture of you, stuck up in my bedroom. Everywhere I go, I think of you. Why can't we go on, darling, like we did before? Life should be ever open, let an open door. Now I'm so lonely, lost and all alone, 'cause they are married with children of your own. You call me Jackie, I call you Edna. The white seagulls around, circle breaking, what a sound. The big old cave, the noise inside, seeing you drift down the pier, oh how you're great good flights. You know it's right, it can't be wrong. Just 2 weeks, one summer, didn't last too very long. Why can't we go on, darling, like we did before? Life should be ever open.
Si on n'est pas une femme victime, on est obligé d'avoir un positionnement. Alors, même si on est maladroite, à partir du moment où on va poser des limites à l'autre, je veux dire, on ne va pas forcément, ce n'est pas le savoir théorique, il n'y a pas la trame, la méthodologie qu'on va apprendre à l'université ou quand on fait un travail d'équipe. On est là avec la charge de sa vie quotidienne. Donc, je suis en train de me poser la question si... parce que j'ai comme ça quelques exemples, mais c'est pas encore très clair, j'ai pas encore assez exploré ce côté-là, mais je commence à avoir le soupçon que lorsqu'il y a un profil de femme qui se positionne de manière à ne pas être une victime, elle est rejetée et on en revient là au vieux fantôme, la sorcière, c'est quelqu'un qui s'approprie, qui du coup rendrait l'autre victime, alors que c'est une femme qui stoppe l'autre dans un processus. Et je me demande si la société finalement ne serait pas en train de se nourrir tout en le dénonçant, on l'aurait vu pour d'autres choses, hein, mais que la femme victime quand même ça rassure. ça rassure, parce que quand on n'est pas victime, forcément, on n'a pas une expression commode, on est comme je suis, on a le torse en avant, on est comme ça. Ce qui m'a été renvoyé à une époque où j'étais vraiment sur la défensive, lâche-toi, tu es trop, on te sent trop accroché au morceau. Oui, je défends mon territoire, je défends mon équilibre de vie, je défendais mon intégrité, au-delà de la maternité. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était mon intégrité que je défendais, bien plus que la maternité. Et forcément, on n'a pas une posture toute romantique, et du coup, ça fait très peur. Ça fait très peur, et y compris aux femmes. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce que certaines femmes qui se sentent parvenues, je veux dire, sur un pied d'égalité, dans un système qui va s'imaginer ne plus avoir à se poser de questions sur l'évolution de système féminin, du système masculin, de comment ça fonctionne, cette construction sociale, et qui s'imaginent avoir abouti à tout dans leur vie et dans la vie des autres, si l'image qu'une femme qui est en pleine action, justement, de poser les limites et de dire « ça ne se passera pas » et « ça ne se passera pas », elles ne sont pas elles-mêmes effrayées, finalement, par l'image d'une autre femme qui est dans cette posture. Ce sont des questions. Mais du coup, c'est une hypothèse, moi, que je me retiens. Je crois que j'ai, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai très fait peur. Je leur ai fait énormément peur, finalement. Ça cachait quelque chose que même l'enquêteur social, le psy, qui trouvait tout très bien, hein, avec l'enfant chez moi, tout ça, c'était bien, hein, le jeune enfant, la maman, tout ça, c'était parfait. Mais à la fin, il a quand même un sentiment confus de l'appropriation. Enfin, il y avait un sentiment confus que lui l'a traduit par une légère sensation de l'appropriation de l'enfant par la mère. Enfin, voilà, j'ai un petit peu interpellé tout le monde. Et je remarque avec d'autres femmes qui ont cette posture comme ça, sans forcément être le cliché de la guerrière, etc., hein, mais il leur arrive que des merdes. Donc je commence à me demander si finalement, et sincèrement, sur le coup, je me suis dit j'aurais dû tout laisser faire. J'attendais stoïquement que ça se passe, parce que je savais que j'allais finir par être marquée physiquement, le faire reconstater, et je pense que c'est à moi qu'on aurait déroulé les tapis rouges et que j'aurais pas eu besoin de me sentir bouleversée comme ça aussi profondément. Mais bon, en même temps, je suis quand même heureuse d'être comme je suis, mais je n'ai pas été entendue. J'ai eu l'impression qu'on m'avait attaché les pieds et les poings pour me dire « mais laisse-toi faire, il faut que ça marche comme ça, tu déstabilises tout ». Enfin, j'ai pas fini d'avoir les réponses, peut-être que je les aurai jamais. Et j'ai remarqué que du coup, c'est vrai que les prostituées nous faisons peur. Ce regard agressif qu'on va sentir quand on est dans la rue. Il y a l'agression des hommes, mais il y a un regard qui glace les chines, qui glace le dos, et il vient des femmes. Il y a quelque chose qui se passe. On leur est pas transparente, elles nous voient. Mais il y a des messages comme ça, il y a eu des regards, des nanas qui passaient en voiture. On renvoie quelque chose qui fait flipper les gens. Quand j'ai rencontré Monique et Marseille, j'étais assise sur ma rambarde, sur mon lieu de travail, en plein millimélo, parce qu'en plus il fallait que je paye tout, justement, les affaires familiales, mais c'est en lien avec la prostitution, parce que ça coûte cher, hein, leur philosophie. Et qui c'est qui a payé leur philosophie? C'est moi. Parce qu'enfin, il y a toute une logique qui veut qu'en cours d'appel, celui qui perd, il paye les deux cabinets d'avoués. Donc, en plus de mon avocat, j'ai dû payer les deux cabinets d'avoués. Ça fait la facture, j'ai gardé les factures parce que ça fait cher. Hein. Donc j'étais sur mon espace de travail, assis sur ma rambarde. Je vois une voiture qui s'arrête à cheval, deux pneus sur le trottoir, deux pneus sur la route. Et bon, on est habitué à tout quand on bosse. Voilà, surtout, je tapinais quand même la nuit. Donc, et je vois deux nanas descendre de voiture et tout. Et prise par l'ambiance, je me dis, ah, deux femmes, mais qu'est-ce qu'elle... Allez, qu'est-ce que c'est qui m'arrive encore? C'est quoi ce plan? Est-ce que c'était un pari après une soirée bien arrosée et tout? Bon, mais je les ai regardées avec... je les ai laissées m'approcher, j'étais bienveillante, mais j'étais un petit peu sur l'œil de me dire, c'est quoi ce plan ? Et donc elles se sont présentées, elles m'ont expliqué le projet. Je suis descendue de ma rambarde et justement j'avais eu l'occasion de prendre contact avec une association à Marseille qui m'avait été indiquée. J'avais dû passer par tout un tas de réseaux. En plein boom des affaires familiales, je me suis sentie toute seule à Toulouse et je me suis dit, il y a un truc là. Il y a un truc, on parle des discriminations et tout, c'est pas possible. S'il y a quelque chose, donc j'avais essayé de prendre contact, j'avais obtenu une adresse à Marseille, et donc je m'étais rendu compte qu'en fait c'était des personnes qui se connaissaient, qui elles m'ont parlé bon, de comment elles essayaient de monter un réseau, dans quelle optique elles travaillaient avec les personnes prostituées, comment elles voulaient monter une association à Toulouse, et voilà, et depuis on ne se quitte pas. Et j'ai beaucoup d'estime pour ces femmes, mais au-delà de la prostitution, au-delà du fait qu'elles sont responsables de l'association, qu'on travaille dans des conditions globalement hyper vivifiantes, hyper épanouissantes, même si le boulot est dur. Hein. Donc on s'est rencontrés en 2000, de 2001, j'ai signé le contrat de travail. Alors le libellé de ma fiche de paie, c'est animatrice de prévention santé. Le problème, c'est qu'ici, il faut être polyvalente. Parce que ben, selon les conjonctures sociales, donc au début de l'association, évidemment, de l'ouverture de l'association, j'étais la première embauchée dans l'équipe. C'était pas question de... Enfin, au niveau juridique, les questions c'était comment se déclarer, comment affiner les déclarations, suivre le parcours au niveau des URSSAF, peut-être pousser un peu la discussion pour qu'il y ait des bails commerciaux, pour avoir un local, mais que ce soit, que ça tombe pas sous le proxénétisme hôtelier, enfin voilà. La réflexion était là, sauf que en 2003, en l'espace de 3 mois, entre l'annonce de ce projet de loi et son vote, on est amené à faire du juridique, beaucoup de pénal, comprendre ce que c'est que tout le fonctionnement juridique, et ça prend toute l'énergie à ce qui pourrait ressembler à des constructions de vie, récupérer les coûts quand les nanas après... une comparution immédiate, ont passé la nuit à la maison d'arrêt de Cesse. Au tribunal, elles vont être relaxées, mais la maison d'arrêt de Cesse, puisqu'il y a les papiers à signer, etc., ne les lâchera qu'à 9h, c'est l'hiver, il fait nuit, et les navettes entre Cesse et Toulouse, il n'y en a plus, depuis 2 heures. Donc voilà, il faut aller récupérer quand même avec la voiture parce que ça va, il y a des limites. Et qu'en termes de régulation sociale, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est pénalisé au bout d'un moment. Et alors de temps en temps, il y a le côté du suivi qui prend le pas sur le côté militant, mais moi je suis en posture militante, ça c'est clair. Après je peux tout à fait entendre une nana qui va me dire, moi j'en peux plus de faire ce job à la con, les mecs ils pètent les plombs, les clients, parce qu'il y a un nombre, par rapport à ce que j'ai connu, il y a toujours eu des agressions, mais il y a une montée de violence, on le dit pas juste pour faire joli, hein, pour remplir des lignes sur des feuilles blanches, c'est moi qui ai cette expérience-là, je suis impressionnée par les stratégies que vont utiliser les mecs pour agresser les nanas, qui ne se passait pas à l'époque où j'ai exercé vraiment intensément. Les mecs se sont légitimés dans la violence, c'est clair. Je sais aussi les arguments que moi j'utilisais pour calmer ceux qui avaient envie de déborder. C'est des arguments que je ne pourrais plus du tout utiliser. Parce que c'est qu'est-ce que tu fais là, sale pute Et donc, les jours où j'avais la forme, je dis... J'ai pas du tout écouté les infos. On a changé de gouvernement ce matin. On est en dictature. J'ai pas le droit d'être là. Ah mince. Alors du coup, c'était tellement gros ma manière de répondre. Mais c'était tellement vrai. Parce que le mec qui m'agressait verbalement, mais qui me montrait une posture qui pouvait passer aussi à l'acte physiquement, était sans doute pas mieux estimé par la société que moi. Ce que je lui renvoyais était tellement vrai qu'en général, ça désamorçait la violence, quoi. Et que bon, maintenant, je ne vais pas m'amuser à utiliser cet argument, parce que l'autre, il va finir de m'emplâtrer, et il va me dire « Non, t'as pas le droit d'être là. » Et il aura raison, et je ne pourrai rien dire. Et j'aurai l'air con. Non, oui, ma position à l'association, c'est une position militante. Je vais respecter les choix de vie et les choix de projet de vie des personnes. D'ailleurs, ça nous donne beaucoup aussi de mal se projeter vers un avenir professionnel autre que la prostitution. Les portes ne sont pas ouvertes, hein, c'est bouché pour tout le monde, pour les prostituées aussi. Il n'y a pas de miracle, c'est normal. Mais faut bien qu'elles aient leurs propres outils pour pouvoir vivre le quotidien, parce que même, y compris les femmes qui obtiennent des papiers pour rester sur le territoire français selon l'aménagement de la loi Sarkozy, qui pour se faire pardonner le vote de cette loi et le faire passer justement au niveau des groupes de personnes qui sont vigilants aux droits des femmes, a mis en avant que c'était pour favoriser la dénonciation des réseaux proxénètes, etc., et sortir ces pauvres victimes de l'enfer dans lequel elles étaient tombées. Seulement, ce qu'ils oublient, c'est que pour obtenir des papiers, c'est tout un parcours. Le premier récépissé, il n'y a pas l'autorisation de travail, et qu'il n'y a qu'elles-mêmes pour avoir la force et le courage pour assumer leur quotidien. Hein. Et ça, il n'y a pas de miracle, c'est avec des passes. Donc au bout d'un moment, il faut que quand même, les choses... Et ça ne leur est pas reconnu, il n'y a pas de reconnaissance de leur mérite. Je crois que c'est ça qui est le plus destructeur. Il n'y a pas cette reconnaissance du mérite. Je sais que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé et on va m'entendre longtemps. Ah non, j'ai pas fini de tout dire sur la prostitution. Et tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai à pousser mes gueulantes parce que je ne désencolère pas.
On nous a...
C'était Kenny Arcana sur Dégenré, le 97 FM Radio Kaléidoscope. Alors notre émission, elle touche à sa fin. Et du coup, on voulait un peu finir sur l'appel à la Pute Pride qui s'est déroulé à Paris donc le 18 mars dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'était en même temps qu'une des manifs contre le CPE. Alors je pense qu'on en a moins entendu parler du coup. Et on n'a qu'à vous lire le communiqué de l'appel. Non à la putophobie, légitimation du travail du sexe. Des dizaines de milliers de femmes et de transpédéguines se prostituent en France. Sur le trottoir, dans les bars, par internet, etc. Mais nos conditions de travail sont lamentables et notre protection insuffisante. Réagissons.
La prostitution, un travail? En quoi le fait de bosser dans une usine, d'opérer tous les jours, toujours les mêmes gestes, 35 heures par semaine, jusqu'à avoir des tendons ou des muscles qui lâchent, ou bien tomber en dépression, est moins une vente de son corps que la prostitution? Évidemment, Rendre des services sexuels quand ce travail est illégal entraîne des dangers. Réseau de proxénétisme, touchant une partie de nos collègues, viols et agressions de la part des policiers, des amendes exorbitantes, risques de contrôles fiscaux, etc.
Quand les abolitionnistes s'associèrent à Sarkozy, en nous considérant comme des sous-citoyennes et en prétendant qu'il faut aider les prostituées à s'en sortir, les abolitionnistes participent pleinement à la politique de répression de la prostitution établie par Sarkozy et ses collègues ministres et députés, lesquels, rappelons-le, votent contre nous mais nous payent pour baiser juste après. Ils permettent que la société nous rejette au nom d'une morale abjecte qui dit qu'il vaut mieux souffrir dans un vrai travail que de se faire payer pour du sexe. Ainsi, nous devrions avoir honte de notre métier.
Fière d'être pute. Et si nous préférions tapiner plutôt que de bosser dans un fast-food ou ailleurs? Et si nous cessions d'avoir honte? Cessons d'être considérés comme des victimes et crions hystériquement notre fierté d'être pute et les liens qui marquent notre solidarité. Nous réclamons l'arrêt de la répression policière.
Retrait de la loi sur la sécurité intérieure, surtout l'article L50.
Démission de Sarkozy, élu plus grand putophobe de France.
La condamnation et l'arrêt immédiat de tous les viols et agressions commis par des policiers à notre encontre.
L'annulation de toutes les amendes adressées pour racolage passif.
Nous revendiquons le droit de travailler en toute liberté.
La législation de la prostitution en France.
Légalisation. Le libre choix du statut et des conditions de travail, profession libérale, statut salarié, etc.
La reconnaissance de nos droits sociaux, l'égalité des droits avec les autres travailleuses.
La pénalisation de toutes les discriminations putophobes.
Des papiers pour toutes, étrangères et trans.
Voilà, donc c'était l'appel à la pute Pride et bah voilà, on fera sûrement une autre émission parce qu'on avait encore d'autres choses qu'on avait envie de dire, mais on n'a jamais assez de temps.
Et du coup, maintenant on va vous dire salut et on va enchaîner avec un dernier interview de Gridel 10, bref, et puis un morceau.
Une chanson émeutière de Noisy qui s'appelle Sous le ciel de Paris. Et oui, et juste en fait un lien, en plus des livres de Griselitis dont on vous a parlé, il y a aussi un livre bien intéressant de Claire Cartonnet qui s'appelle J'ai des choses à vous dire et qui est une prostituée militante lyonnaise. Et on voulait vous dire que pour avoir plus d'infos, vous pouvez aussi aller sur le site de Kabiria, qui est une association de santé communautaire avec les prostituées à Lyon. Et donc c'est http://www.kabiria.asso.fr. Voilà, on vous laisse et à dans 15 jours.
Salut.
On nous a tellement décriés, on nous a tellement mises dans la boue, dans le soi-disant ruisseau, qu'il faut relever la tête et dire nous existons, nous avons une valeur humaine, une valeur professionnelle, et nous avons aussi notre liberté à gagner. Ça ne suffit pas d'être révolté. Il faut faire la révolution, c'est-à-dire passer à l'action. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pendant 30 ans. L'écriture est une arme extraordinaire. Elle est d'autant plus tranchante qu'on ne la soupçonne pas immédiatement d'être efficace. Et c'est quelquefois à long terme. Il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se décourager. Il faut travailler l'écriture comme on travaille justement un maniement de fusil. Mais moi, je suis pour la paix. Et l'écriture doit aussi tendre à la paix. Mais quelquefois, il faut combattre. C'est nécessaire. J'ai envie.